La tradition veut que le grand maître, avant de mourir, ait prophétisé la ruine de ses persécuteurs. En effet, le pape, le roi et Nogaret mourront dans l'année. Quant à Marigny, après la disparition du roi, il sera soupçonné de malversation. Ses ennemis l'accuseront de sorcellerie et le feront pendre. Beaucoup commencent à penser à Molé comme à un martyr. Dante se fera l'écho de l'indignation nombreuse pour la persécution des Templiers. Ici finit l'histoire et commence la légende. Un de ces chapitres veut qu'un inconnu, le jour où Louis XVI est guillotiné, monte sur l'échafaud et crie « Jacques de Molay, tu as été vengé ». Voilà plus ou moins l'histoire que, interrompue à chaque instant, je racontais ce soir-là chez Pilade. Belbeau me demandait « Mais êtes-vous bien sûr de n'avoir pas lu tout ça chez Orwell ou chez Koestler ?» Ou bien « Allons donc, c'est pas l'affaire, comment s'appelle cette affaire de la révolution culturelle ?» Alors Diotalevi intervenait, sentencieux, chaque fois. « Historia magistra vitae !» Belbeau lui disait « Voyons, un kabbaliste ne croit pas à l'histoire !» Et lui, invariablement, « Justement, tout se répète en cercle. L'histoire est une école de vie, parce qu'elle nous enseigne qu'elle n'existe pas. Mais l'important, ce sont les permutations. » « Mais en somme, dit Belbeau à la fin, qui étaient les Templiers ?»« D'abord, vous nous les avez présentés comme des sergents d'un film de John Ford, puis comme des malpropres, ensuite comme les chevaliers d'une miniature, puis encore comme des banquiers de Dieu qui se concoctaient leurs biens louches affaires, puis encore comme une armée en déroute, et puis comme des adeptes d'une secte luciférienne, enfin comme des martyrs de la libre-pensée. Qui étaient-ils ? Il doit bien y avoir une raison pour laquelle ils sont devenus un mythe. Ils étaient probablement toutes ces choses à la fois. Qu'est-ce qu'a été l'Église catholique, pourrait se demander un historien martien du troisième millénaire ? Ceux qui se faisaient manger par les lions ou ceux qui trucidaient les hérétiques ? Tout ça à la fois.
Mais à la fin, ces choses, ils les ont faites ou pas ?
Le plus amusant, c'est que leurs disciples, je veux dire les néo-templaristes d'époques différentes, disent que oui. Les justifications sont nombreuses. Première thèse, il s'agissait de rites goliardiques. Tu veux devenir templier ? Montre que tu as une paire de couilles comme ça, crache sur le crucifix, et voyons un peu si Dieu te foudroie. Dès lors que tu entres dans cette milice, tu dois te livrer poings et pieds liés aux frères. Fais-toi donner un baiser au cul. Deuxième thèse. On les invitait à renier le Christ pour voir comment ils s'en tireraient quand les sarrasins les prendraient. Explication idiote. Parce qu'on n'apprend pas à quelqu'un à résister à la torture en lui faisant faire, fût-ce symboliquement, ce que le tourmenteur lui demandera. Troisième thèse. En Orient, les Templiers étaient entrés en contact avec les hérétiques manichéens qui méprisaient la croix. Car c'était l'instrument de la torture du Seigneur. Et ils prêchaient qu'il faut renoncer au monde et décourager le mariage et la procréation. Vieille idée, typique de nombreuses hérésies des premiers siècles, qui passera au Qatar. Et il existe toute une tradition qui veut les Templiers imprégnés de catharisme. On comprendrait alors le pourquoi de la sodomie, même purement symbolique. Supposons que les chevaliers soient entrés en contact avec ces hérétiques. Ils n'étaient certes pas des intellectuels. Un peu par ingénuité, un peu par snobisme et par esprit de corps, ils se créent un folklore bien à eux, qui les distingue des autres croisés. Ils pratiquent des rites comme des gestes de reconnaissance, sans s'inquiéter de ce qu'ils signifient.
Mais le fameux Baphomet ?
Voyez-vous, dans nombre de dépositions, on parle d'une figura Baphometi, mais il pourrait s'agir d'une erreur du premier scribe. Et si les procès-verbaux sont manipulés, la première erreur se serait reproduite dans tous les documents. Dans d'autres cas, on a parlé de Mahomet. Istud caput vester deus est et vester Mahomet. Ce qui voudrait dire que les Templiers avaient créé une liturgie syncrétiste à eux. Dans certaines dépositions, on dit aussi qu'ils furent invités à invoquer Yallah qui devait être Allah. Mais les musulmans ne vénéraient pas d'image de Mahomet. Et alors, par qui donc auraient été influencés les Templiers ? Les dépositions racontent que beaucoup ont vu ces têtes. Parfois, au lieu d'une tête, c'est une idole entière en bois avec les cheveux crépus couverte d'or. Et elle a toujours une barbe. Il semble que les enquêteurs trouvent ces têtes et les montrent à ceux qu'on soumet à l'enquête, mais au bout du compte, des têtes, il n'en reste pas trace. Tous les ont vues, personne ne les a vues. Comme l'histoire du chat. Qui l'a vu gris, qui l'a vu roux, qui l'a vu noir. Mais imaginez un interrogatoire avec le fer chauffé au rouge. Tu as vu un chat pendant l'initiation. Et comment donc une ferme templière avec toutes les récoltes à sauver des rats devait être remplie de chats ? En ces temps-là, en Europe, le chat n'était pas très commun en tant qu'animal domestique. Tandis qu'en Égypte, si. Qui sait ? Les Templiers avaient peut-être des chats sous leur propre toit, contre les usages des braves gens qui les considéraient comme des animaux suspects. Et il en va ainsi pour la tête de Baphomet. Peut-être était-ce des reliquaires en forme de tête, on en utilisait à l'époque. Naturellement, il y a ceux qui soutiennent que le Baphomet était une figure alchimique.
L'alchimie est toujours pour quelque chose, dit Diotalévi avec conviction. Il est probable que les Templiers connaissaient le secret de la fabrication de l'or.
Bien sûr qu'ils le connaissaient, dit Belbo. On attaque une cité sarrasine, on égorge femmes et enfants, on rafle tout ce qui tombe sous la main. La vérité, c'est que toute cette histoire est un grand bordel. Et ils avaient peut-être un bordel dans la tête. Vous comprenez que leur importaient les débats doctrinaux. L'histoire est pleine de ces corps d'élite qui créent leur style. Un peu fierabras, un peu mystique. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Naturellement, il y a aussi l'interprétation ésotérique. Ils étaient parfaitement au courant de tout. En adeptes des mystères orientaux, et même le baiser sur le cul avait une signification initiatique.
Expliquez-moi voir la signification initiatique du baiser sur le derrière, dit Diotalévi.
Certains ésotéristes modernes estiment que les Templiers se référaient à des doctrines indiennes. Le baiser sur le cul aurait servi à réveiller le serpent Kundalini, une force cosmique qui réside dans la racine de la colonne vertébrale, dans les glandes sexuelles, lequel, une fois réveillé, rejoint la glande pinéale.
Celle de Descartes ?
Je crois. Et là, il devrait ouvrir sur le front un troisième œil, celui de la vision directe dans le temps et dans l'espace. Raison pourquoi on recherche encore le secret des Templiers.
Philippe le Bel aurait dû brûler les ésotéristes modernes, pas ces pauvres diables.
Oui, mais les ésotéristes modernes n'ont pas le sou.
Mais voyez-moi ça, les histoires qu'il faut entendre, conclut Belbo. À présent, je comprends pourquoi ces Templiers obsèdent tant de mes fous.
Je crois que c'est un peu votre histoire de l'autre soir. Toutes leurs vicissitudes ne sont qu'un syllogisme contourné. Comporte-toi en stupide et tu deviendras impénétrable pour l'éternité. Abracadabra, Manel, Tekel, Phares, Papé, Satan, Alépé, le Vierge, le Vivace et le Bel aujourd'hui. Chaque fois qu'un poète, un prédicateur, un chef, un mage ont émis d'insignifiants borborygmes, l'humanité met des siècles à déchiffrer leur message. Les Templiers restent indéchiffrables à cause de leur confusion mentale. C'est pour ça que tant de gens les vénèrent.
Explication positiviste, dit Diotalévi.
Oui, dis-je, sans doute suis-je un positiviste. Avec une bonne opération chirurgicale à la glande pinéale, les Templiers auraient pu devenir des hospitaliers, autrement dit des gens normaux. La guerre corrompt les circuits cérébraux. Ce doit être le bruit des canonnades ou du feu grégeois. Voyez les généraux. Il était 1h du matin. Diotalévi, saoulé par son tonique sans alcool d'Odlinet, nous nous saluâmes. Je m'étais amusé. Et eux aussi. Nous ne savions pas encore que nous commencions à jouer avec le feu grégeois, qui brûle et consume.